gramy to, co naprawdę kochamy. Mamy swój styl i dobrze o tym wiemy, chociaż wiążą się z tym problemy. My jesteśmy po prostu sobą, kolejny dzień jest dla nas przygodą. Tylko trochę zdrowego rozsądku, notatki macie i wszystko w porządku.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, il faut arrêter de se faire exploiter, là, faut essayer.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous.
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans mon lit, il est 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents.
Bonsoir.
Nous sommes le lundi 11 avril et vous écoutez le Canu Info.
Et pour commencer cette émission, on fera une introduction spéciale élection. Bah ouais, on est juste le lendemain, avec tout un tas de petits sujets dessus.
Tout à fait.
Et ensuite, à l'international, on parlera du massacre à Moura et du procès d'Eli Domota.
Et puis au national...
Au national, on fera un point sur le bilan d'Emmanuel Macron. Ça ne nous fera pas de mal de s'en rappeler. Et on enchaînera avec un sujet sur la grève qui a lieu en ce moment à Amazon. Et on terminera par un sujet sur une équipe d'enseignants menacée de mutation en Seine-Saint-Denis.
Et puis au local, on parlera de Vinci à Lyon-Saint-Exupéry. Et on finira par une interview téléphonique sur la lutte des sucs.
Mais tout de suite, on commence donc avec cette introduction spéciale élection.
Oui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais hier, apparemment, ont eu lieu les élections
Eh ouais, présidentielle.
Présidentielle.
Enfin, le premier tour. Bah,
si, vous savez, c'est ce moment fétiche de nos démocraties représentatives où les citoyens et les citoyennes donnent carte blanche pour 5 années à venir aux grands gagnants du jeu électoral. Bon, plus sérieusement, on espère que vous vous êtes remis de la sale gueule de bois d'hier soir. C'est pas comme si c'était une méga surprise, mais bon, c'est quand même déprimant de se dire qu'on va enchaîner 2 semaines d'entre-deux-tours sur les thèmes du « je suis plus à droite que l'extrême droite que toi ». Si vous en avez pas, c'est le moment d'acheter des boules-caisses. Mais pas besoin en tout cas d'une guirlande de pseudo-experts éditorialistes pour comprendre la situation. Une extrême droite dépassant 30% des votes exprimés au premier tour, une droite extrême qui fait un tiers de plus et un tiers de gauche social-démocrate qui passe pas de justesse pour la finale. Pas besoin de le redire non plus, Macron, c'est bien la houle qui a porté cette extrême droite aux portes du pouvoir. Houle, depuis le début de son quinquennat, il a chanté les mêmes vieilles rengaines réactionnaires, il a réalisé une partie de son programme à travers le renforcement de sa police, des lois séparatistes, dont on reviendra dans le détail plus tard. LREM, ce parti des patrons qui pioche donc allègrement ses références idéologiques dans le répertoire fasciste. Spéciale dédicace quand même à Fabien Roussel, qui semble plus satisfait par ses 3% et par un deuxième tour Macron-Le Pen que catastrophé par l'imminence du péril fasciste. Bravo Roussel. On viendra à ton apéro, mais peut-être pas pour boire une bière. Pour terminer, nous ne pouvons que rappeler que la seule alternative désormais tenable face à la pandémie macroniste ou lepéniste qui s'annonce se fera dans la rue, dans nos quartiers, sur nos lieux de travail, à travers la construction d'un mouvement social fort, de pratiques de lutte diversifiées, offensives, de lieux d'organisation anticapitalistes, antifascistes et féministes, où l'on pourra se retrouver, échanger et surtout lutter ensemble. Le mot de la fin sera celui de Gramsci, « Le vieux monde se meurt ». Le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent des monstres. À nous de les abattre.
Il y a encore quelques commentaires sur les élections ?
Non, bah on voulait...
Enfin,
faire...
si.
Oui, tout à fait. On voulait juste... moi, je voulais juste un peu voir les villages dans lesquels il ne faut pas s'installer dans les prochaines années. Je pense notamment à Bigorneau, en Haute-Corse, où Macron a obtenu 77,46% des suffrages. Bon, il y a 71 suffrages, mais je déconseille d'aller s'installer là-bas. Je déconseille aussi d'aller s'installer à Audecourt-au-Bois, en Somme, où Marine Le Pen a obtenu 78% des suffrages.
Déconseillé.
Alors que Poutou a obtenu 25%, donc c'est son plus gros score sur toutes les communes.
Bravo, Poutou.
Dans les Pyrénées-Atlantiques à Lichan-Suard. Donc voilà, ça doit être un village plutôt sympa. On souligne aussi la performance de Mélenchon à Éour dans les Hautes-Alpes, où il atteint le score de 91,03%. Donc 71 des 78 votants qui ont apporté leur suffrage à Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même une sacrée performance.
Ce qu'on peut dire également dans les commentaires, c'est que une fois n'est pas coutume, enfin c'est la deuxième fois de suite, donc il y a Macron et Le Pen au deuxième tour. Comme il y a 5 ans, il ne s'est pas passé grand-chose hier soir, alors que quand on regarde ce qui a pu se passer au lendemain du premier tour en 2002, même en 2007, quand Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur et qui ensuite est passé au premier tour, il y a eu des manifestations massives, des émeutes dans un peu toutes les villes de France, en se disant qu'un tel réac au pouvoir... C'était vraiment impossible, ne serait-ce qu'à imaginer. Et depuis, d'élection en élection, eh bien, il y a une espèce de passivité par rapport à ces résultats. Et c'est assez problématique. Hein. Là, a priori, dans nos petites recherches de ce qui s'est passé à l'échelle nationale en France, il y aurait une manif sauvage à Rennes et une dans les pentes de la Croix-Rousse à Lyon. Mais toutes les tentatives de rassemblement et de manifestations qui ont été un peu lancées ici et là ont plutôt été malheureusement avortées. Donc c'est quand même un triste constat, cette passivité par rapport à ce résultat du premier tour.
On peut quand même néanmoins se réjouir des scores de Valérie Pécresse ou Yannick Jadot.
Ça, c'est vrai.
Valérie Pécresse, hein, qui a un 6,2 Poutou, soit 4,78% des voix, donc ce qui est vraiment un score bien merdique. On peut s'en féliciter, c'est juste en dessous des 5% qui leur aurait permis de rembourser leur campagne. Du coup, on peut quand même s'en réjouir.
Voilà, ils vont demander aux militants de payer.
Et puis Hidalgo aussi, on est content quand même qu'elle fasse que 1%.
C'est, ouais.
Non ?
Oui, oui, oui.
Quand même, c'est une belle raclée.
C'est
pour
un
PS.
Score ça cheminadesque, je dirais.
Ouais. Et pour les mobilisations de l'entre-deux-tours, il y a quand même pas mal d'appels à manifestation ce week-end, samedi 16 avril notamment.
Très bien, donc on surveillera nos médias préférés. Si on a terminé pour les élections, on va passer aux brèves. En commençant par des nouvelles très rapides de Libreflow, dont vous avez déjà entendu parler, et qui était en détention provisoire et placé à l'isolement depuis décembre 2020. Il est accusé donc d'association de malfaiteurs terroristes depuis son retour de Syrie, où il a combattu Daesh aux côtés des Kurdes. Il avait entamé une grève de la faim depuis le 27 février, il y a donc presque un mois et demi, il avait perdu presque 20 kilos. Donc il aura fallu qu'il soit transféré en urgence à l'hôpital pénitentiaire pour que le lendemain, on lui accorde enfin une libération. On est évidemment soulagé pour lui, mais il reste tout de même sous contrôle judiciaire et toujours poursuivi pour des motifs un peu douteux.
Et on enchaîne tout de suite.
Ah, on a une deuxième brève. On n'a pas de deuxième brève, c'est pour ça qu'on va passer en fait à une citation de la semaine qu'on a sautée. On n'a pas de citation de la semaine, ok. Donc on va passer. International. On va parler d'un massacre.
Mais presque, pas du tout.
Presque, il y a quand même un mort dans l'histoire.
Qui a eu lieu il y a 34 ans. On va parler du procès de l'assassinat de Thomas Sankara.
Oui, l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, a été condamné mercredi dernier par contumace à la prison à perpétuité pour sa participation à l'assassinat de son prédécesseur, Thomas Sankara, tué avec 12 de ses compagnons en 1987. Ce verdict met donc fin à un procès très très long de 6 mois qui s'était ouvert 34 ans après la mort de Sankara, icône donc du panafricanisme, assassiné lors d'un coup d'État qui avait porté au pouvoir Blaise Compaoré. Le 4 août 1983, la garnison, rappelez-vous, insurgée de Pau, commandée par justement ce même Compaoré, arrive à Ouagadougou et prend le pouvoir. La création d'un Conseil national de la Révolution, un CNR, précède alors la constitution d'un gouvernement regroupant toutes les forces politiques de la gauche radicale. Parallèlement, Sankara est alors placé à la tête de l'État et incite à l'auto-organisation du peuple par la constitution notamment de comités de défense de la révolution, les CDR. Défiant les structures des chefferies claniques traditionnelles, ces comités sont par exemple responsables de l'établissement des cartes d'identité, du recensement de la population ou encore de la collecte des impôts. C'est cet effort de mise en place d'une démocratie directe, elle passe également par son volet juridique et par l'instauration de tribunaux populaires de la révolution, les TPR, dont la prérogative est de pouvoir juger tous les agents assermentés par l'État, notamment les policiers et l'armée. C'est une mesure surtout pour lutter contre la corruption. Entre 1983 et 87, donc, Sankara mène une politique révolutionnaire qui fait chanceler les grandes puissances occidentales. Il a esquissé l'horizon d'un nouveau type de développement anti-impérialiste, centré notamment sur l'amélioration concrète des conditions de vie de la population et de la paysannerie. En prenant les armes, Sankara entend d'abord arracher son pays à la dépendance financière, à la France, mais aussi aux grandes institutions monétaires internationales comme le FMI ou la Banque mondiale. À une époque donc où règne la fluctuation des cours du pétrole dans les années 70, la crise de la dette des pays du tiers-monde et le triomphe du néolibéralisme dans les pays occidentaux, Sankara a misé sur une économie agricole, paysanne, pour faire face notamment au déficit vivrier. L'objectif a été vite l'autosuffisance alimentaire, de façon à ne plus dépendre des aides extérieures. Depuis l'assassinat de Sankara, donc, en 84, le régime de Compaoré, qui lui a régné entre 1987 et 2014, ce régime n'a pas cessé de mettre des bâtons dans les roues à toutes les enquêtes visant à éclairer les circonstances de l'assassinat. Jusqu'en avril 2008, il faut s'imaginer que le certificat de décès de Sankara établissait encore une mort naturelle, mais par balle. Bon, un peu contradictoire. Il aurait fallu attendre donc l'insurrection de 2014 qui a précipité, vous en rappelez, la chute de Compaoré pour que soit réouverte l'instruction judiciaire qui a abouti donc la semaine dernière. Depuis 2015, il a été prouvé que c'est la garde rapprochée de M. Compaoré qui constituait le commando qui a liquidé Sankara. Les tueurs seraient même partis du domicile de Compaoré alors qu'il était ministre de la Justice. Le procès qui s'est achevé la semaine dernière s'est déroulé pourtant sur fond d'absence. Le chef du commando, Hyacinthe Kafando, est toujours en fuite et l'ancien président Blaise Compaoré a été exfiltré par qui ? par la France lors de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Depuis, Compaoré s'est réfugié en Côte d'Ivoire. Mais malgré cette absence caractéristique, la reconnaissance du meurtre de Sankara par la bande de Compaoré rend tout de même un peu plus de justice à ce grand révolutionnaire burkinabé.
Et ensuite, toujours à l'international, un autre procès.
Ouais, celui d'Eli Domota en Guadeloupe. Alors, c'est volontaire hein, qu'on mette la Guadeloupe à l'international, puisque la Guadeloupe est une colonie française. Alors, pour rappel ou information, Eli Domota a été longtemps le porte-parole du mouvement dit LKP et une figure de l'UGTG, l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe. Hein, rien à voir avec notre CGT métropolitaine. En ce qui concerne le LKP, donc... Ce mouvement a été créé en 2009 lors de la grève générale à forte tendance insurrectionnelle qui a touché la Guadeloupe. À l'époque déjà, la population guadeloupéenne dénonçait la domination coloniale de la France sur l'intégralité de leur vie, notamment en ce qui concerne l'économie, dominée par quelques grands groupes d'entreprises français qui constituent un véritable oligopole à l'échelle du territoire et qui profitent de cette situation pour pratiquer des prix plus qu'abusifs. C'est ce que dénonçait à l'époque le LKP, qui regroupe une cinquantaine d'organisations politiques, syndicales ou associatives. Avec donc une personnalité syndicale qui, à l'époque, en 2009, a émergé, Eli Domota, entre autres. Mais depuis 2009, et malgré quelques victoires de cette forte mobilisation, la situation des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes a continué de se dégrader. Avant la pandémie, donc en 2017-2018, 34%, plus d'un tiers donc des Guadeloupéens et Guadeloupéennes vivaient sous le seuil de pauvreté, contre 14% pour la métropole. La pandémie et la crise économique ont littéralement fait exploser ce chiffre, et dorénavant, ce sont les chiffres de l'extrême pauvreté qui sont alarmants en Guadeloupe, et d'ailleurs dans beaucoup d'autres DROM comme les anciens DOM-TOM, comme notamment la Martinique, la Réunion, et pire encore la Guyane, voire Mayotte. L'accès à l'eau potable est très largement limité en Guadeloupe, notamment du fait de la vétusté des canalisations et des centres d'assainissement d'eau. Idem pour l'électricité, et ne parlons pas du système de santé qui est au bord du gouffre depuis plusieurs années, et évidemment la pandémie est passée par là. Tout est cher, tout est trop cher, tout est beaucoup trop cher pour une population globalement pauvre, voire très pauvre, et dominée par des Français ou françaises métropolitains qui possèdent les moyens de production, les entreprises, les terres. Une domination coloniale donc. Bien que partant pour beaucoup de la question sanitaire et contre la gestion autoritaire de la crise par l'État français, c'est bien contre cette domination et ces inégalités que se sont révoltés les Guadeloupéens et Guadeloupéennes récemment, vous en avez parlé, en novembre-décembre 2021. Alors, comme en 2009, où l'île avait vu débouler le GIGN et le RAID pour briser la rébellion, la répression de l'État français a été tout aussi féroce en novembre-décembre 2021. C'est dans ce cadre-là que Eli Domota a été violemment tabassé puis interpellé le 30 décembre 2021, alors qu'il occupait un rond-point à la sortie de Pointe-à-Pitre. Sur les vidéos de l'époque qui ont pas mal tourné sur les réseaux, on le voit, lui et d'autres, en train d'avancer, les mains levées vers les gendarmes mobiles qui se mettent à plusieurs pour le tabasser, lui et les autres, direction la garde à vue. Le procès donc, son procès, puisque c'est lui qui passe en procès, avait lieu ce jeudi à Pointe-à-Pitre pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, alors que c'est lui qui s'est fait tabasser. C'est pas nouveau dans les tactiques policières et judiciaires. Ce procès s'inscrit, lui, dans un plan plus global de répression contre l'UGTG, l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, le LKP et l'ensemble du mouvement social guadeloupéen. D'abord en s'attaquant aux plus jeunes du mouvement social, en novembre-décembre, hein, qui ont été massivement interpellés et condamnés à de la prison ferme, sans aucune considération du contexte social, alors que beaucoup avaient des casiers judiciaires vierges. Ça fait un peu penser aux Gilets jaunes. Mais cette répression touche également d'autres figures de l'UGTG, comme le syndicaliste Guy Clavier, mais aussi certains avocats, voire avocates du mouvement, dont le but évident est de punir leur soutien au mouvement. L'un d'entre eux va même être jugé en Martinique afin d'empêcher l'organisation d'un soutien populaire le jour du procès. Pour finir sur cette répression, la préfecture de Guadeloupe use d'arguments profondément racistes et de méthodes coloniales en utilisant l'argumentaire d'une révolte coordonnée et organisée par des gangs, des hordes de sauvages qu'il faudrait mater en somme. Au vu des 5 prochaines années de Macron qu'on va se manger dans la gueule, le peuple de Guadeloupe a d'excellentes raisons de se révolter. Solidarité la plus totale avec Eli Domota, l'UGTG, le LKP et l'ensemble du mouvement social de Guadeloupe.
Allez, pour introduire la rubrique nationale, une petite musique, on va écouter Made in France.
Made in France, pas made in Taiwan. Ok. Je suis pas made in France quand je vois les étudiants devant le Crous faire la queue pour obtenir la moitié d'un casse-croûte. Encore un texte qu'on vilipende, ça faisait longtemps. Normal que je prenne les premiers coups si je suis toujours en avance sur mon temps. Je suis pas made in Algérie, des généraux. Un seul héros, c'est le peuple et y'aura jamais à changer les rôles. Je me sens algérien comme ceux qui ne l'étaient pas à la base. Jacques Vergès, Frantz Fanon et la grand-mère d'Edith Piaf. Je suis pas made in Dubaï, là-bas y'a trop de chichi. Y'a que des connards d'exilés fiscaux riches du dropshipping. Je suis plus vieux que leur archipel sorti hier de sous terre, avec leur super tower que des indiens soudèrent. Ils ont démoli immense des parcs de jeux pour tout âge, les bâtissants salissant le place d'Ibn Battuta, comme une boutique de CBD qu'on appelle Bob Marley. Les rues les plus violentes s'appellent Gandhi à ce qu'il paraît. J'suis pas made in Qatar, ni que le foot et le soft power. La World Cup 2022 est pleine de sambosseurs, de Népalais, de Sri Lankais et Philippins. Mille vies venues d'Inde par conteneur comme parquette de filet d'Inde. J'suis pas made in Russia qui censure tous les podcasts. Je veux pas d'un président torché à la mauvaise vodka, qui empoisonne ses opposants avec des neurotoxiques, croire refaire l'image de son peuple à la chirurgie plastique. Je suis pas made in USA, made in America. Ils sont jamais retournés sur la lune, mais deux fois en Irak. Y'a eu du chemin de fait depuis que les Noirs luttèrent, mais les rues les plus violentes sont celles qui portent le nom Martin Luther. À Thanksgiving, ils se souviennent des Indiens en génocide dans toutes les dindes et passent au Black Friday le lendemain. Pas de calumet, allume les Noirs avec des armes de taille humaine. Pas besoin de détailler, c'est la mentale états-unienne. Je suis pas made in Africa et toute sa corruption. Vouloir être l'égal de l'Europe, c'est clairement manquer d'ambition. Où la misère est beaucoup mieux partagée que les richesses. Où y'a peut-être beaucoup moins de diplômés que de fichesses. Je suis pas made in Saoudia, ni de la Mecque, ni de Riyad, qui font payer les vieillards, plus de trois qu'à le pèlerinage. Pas made in El Madina. Si mon père m'a donné ce blaze, c'est pour honorer son sable, pas pour surfer sur l'histoire. Made in France.
Je suis un palmier du pays de Caux, de la France périphérique comme Adama, oublié comme Airbnb à Damas. Politiquement, je suis médiéniste de gauche, entre un démon NOS et Pierre Desproges. Chaque fois que je rappe, y'a v'là les doses. Chaque fois que je prends position, je perds des proches.
J'ai comme une envie de prendre les valeurs actuelles. Chez qui y a plus de connards que de prix Nobel. Vous serez prêts à vendre du papier à des arbres. Même les poissons ont la honte d'être emballés dans vos pages. Ils sont en train de faire de nous leur pire ennemi. Quand ils s'adressent à l'un de nous comme pépita dans pyramide. Prends des coups de matraque dans le pif comme des tests antigéniques. Si tu loues, c'est qu'un islamiste, au mieux un indigéniste. Pendant qu'ils vendent des rafales au régime des Émirats, ou bien l'essence de Total pour les patrons de la jeune Birman. Pendant que Pépé peut plus payer, sont plus mal médicalisés. Si j'étais personnel soignant, je me serais déjà radicalisé. Ils reculent l'âge de la retraite, mais avancent l'âge de la mort. Disent que c'est nous qu'appelons meurtre, envie de gerber jusqu'à l'aurore. Est-ce que l'État nous protège ou l'État se protège de nous? Je sais plus si la France ça s'épouse. Si on s'embrasse ou on s'étouffe. Je sais plus si je dois militer ou au contraire me limiter. Est-ce que mes repas de mille sont des réunions en ont mixité? Pour me sentir intégré, j'ai rien trouvé d'autre qu'un défaut. Quand le français perd sa beauté, alors il défigure les autres.
Vous écoutez Radio Canu sur le 102.2.
Et c'est on a été hacké par une machine à écrire, visiblement.
Nous sommes très perturbés par les résultats du premier tour. Veuillez nous excuser.
Allez, on passe au national.
National.
Parce que c'est les élections, on parle des 5 prochaines années, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant les 5 dernières années?
Et oui, on va faire un petit bilan de Macron. Alors, réforme du code du travail, de la SNCF, suppression de l'ISF, baisse de 5 euros des APL, réforme de l'assurance chômage, réforme du bac, Parcoursup, baisse des cotisations sociales, loi asile-immigration, loi sécurité globale, loi séparatisme, violence policière. Mais quel est donc le véritable bilan du mandat Macron? En 5 ans, les 5% les plus pauvres ont vu leur niveau de vie chuter, quand les 1% les plus aisés ont vu le leur s'accroître de 2,8%. Et le top 0,1%, donc des plus riches, de 4,1%. La présidence Macron, c'est 107 morts lors d'interventions policières.
609 féminicides, soit une femme tuée tous les 3 jours.
2497 morts au travail.
2633 sans domicile décédés dans la rue.
17 900 lits d'hôpitaux en moins.
40% des membres de l'exécutif qui ont eu une affaire à leur nom.
3,5 milliards de recettes fiscales par an en moins en faveur des 1% les plus aisés.
Mais 3,7 milliards économisés sur le dos des plus pauvres avec la réforme du calcul des APL.
Belle économie.
Pas mal.
L'augmentation de 0,6% du taux de pauvreté, retrouvant ainsi en 2019 son niveau de 1979.
C'est beau celui-là. 1,7 million de chômeurs et de chômeuses pénalisés par la réforme de l'assurance chômage.
L'augmentation de 53% de la facture de gaz.
L'augmentation de 13% de la facture d'électricité.
L'augmentation de 4,12% des loyers.
L'augmentation de 70% du prix du gasoil.
Mais aussi l'augmentation de la fortune des milliardaires de 200 milliards de dollars à 500 milliards. Merci et bravo,
bravo
Manu pour ce
Macron,
beau bilan.
À du prochain quinquennat.
Voilà, si ouais, vous avez super. Envie de pleurer ou d'aller...
Moi, je pense qu'on va arrêter l'émission. Merci de nous avoir écoutés.
C'est normal.
On était à deux doigts de faire la liste de tous les blessés mutilés par la police, mais
on y sera encore.
Ouais. On pourrait parler des dissolutions aussi des groupes de camarades. Hein. Il y en a plein d'autres.
La liste aurait pu être longue.
On
aura
sûrement l'occasion d'en reparler de toute façon.
De toute façon.
Pour se remonter un peu le moral, on enchaîne avec une grève à Amazon.
Oui, voilà. Donc depuis le 3 avril, les salariés des 8 grands centres de logistique Amazon en France ont lancé un mouvement de grève, accompagné de plusieurs actions perturbatrices, notamment des blocages. Donc c'est parti dimanche après-midi de l'entrepôt de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. La grève a touché lundi matin à la suite de l'appel de l'intersyndicale tous les centres de distribution, jusqu'au dernier entrepôt géant ouvert en août 2021 à Metz. Entre 1200 et 1500 salariés, donc selon les syndicats, auraient cessé le travail sur les sites de Brétigy-sur-Orge, Boves, Saran, Montélimar, Louvain-Planque, Metz, Senlis et Sevrey. Et le Front uni des syndicats promet des actions jusqu'au 14 avril, date de la prochaine réunion des négociations annuelles obligatoires. Alors pourquoi ils font grève ? Les grévistes réclament essentiellement une hausse des salaires pour au minimum suivre donc à la fois l'inflation et à la fois la hausse du SMIC. En effet, les revalorisations d'octobre, de janvier et bientôt donc de mai, le SMIC aura augmenté de 6%. Et donc les salariés qui touchaient un peu plus vont maintenant se retrouver payés au SMIC. Cette augmentation du SMIC n'étant qu'une simple réaction à la hausse des prix, elle ne va permettre aux SMICards d'accéder à un meilleur, elle ne leur permettre que d'accéder à un meilleur, ne va pas leur permettre pardon d'accéder à un meilleur pouvoir d'achat. Quant aux personnes dont le salaire ne suit pas l'inflation, eux, ils vont forcément perdre un pouvoir d'achat logique. La direction d'Amazon France n'a pas encore entamé les négociations avec les syndicats, et c'est donc le 14 avril, vous l'aurez compris, mais elle a déjà voulu saper la mobilisation en annonçant à tous les salariés, par le biais d'une application téléphonique interne à la boîte, une augmentation de 3%. Alors c'est déjà bien en dessous de l'inflation, donc, puisque la hausse des prix a bondi en mars à 4,5% sur un an, qui apparemment serait un niveau jamais atteint depuis 1985. Et c'est surtout bien en dessous ce qui est revendiqué, à savoir 5%. 3%, c'est dérisoire, mais surtout l'utilisation des outils de l'entreprise, donc ici une application pour saboter les syndicats, ça rappelle vaguement les méthodes utilisées par Amazon aux États-Unis lors de la tentative de ces travailleurs d'y fonder un syndicat l'année dernière. Là-bas, Amazon n'avait pas lésiné sur le lobbying, 4,3 milliards d'euros, pour contrer cette tentative. Notamment en créant des formations obligatoires pour tous ces salariés qui consistaient essentiellement à leur dire que le syndicalisme allait leur faire perdre de l'argent, ainsi que de leur parler des dangers du communisme. Donc propagande grossière, mais d'abord efficace, puisqu'il y a eu une première vague d'échecs sur la création de syndicats en 2021. Mais la semaine dernière, les employés de sa plateforme logistique JFK8, la plus grande de New York, ont voté en faveur de la création d'un syndicat qui sera donc le premier syndicat chez Amazon dans l'histoire de l'entreprise aux États-Unis. Mais retournons en France, où la CGT Sud, la CFDT, la CAT et la CFE-CGC cadre promettait mercredi pour les jours à venir d'autres débrayages surprises afin de maintenir la pression jusqu'au 14 avril, date donc, vous l'avez, je vous le rappelle, de la prochaine réunion consacrée aux négociations annuelles obligatoires. La direction de son côté assure que le mouvement est à relativiser, qu'il n'y a pas eu d'impact sur l'activité des sites. Mais je vous rappelle qu'en mars dernier, les salariés du site en Essonne faisaient déjà grève pour dénoncer des pressions et des abus de la part des managers qui se permettaient notamment de consulter les photos et les messages de leur téléphone portable personnel. On est un peu obligé de rappeler les 33 milliards de dollars, donc 30 milliards d'euros, de bénéfices de l'entreprise en 2021, soit une augmentation de 57% par rapport à l'année d'avant. Alors on souhaite évidemment aux salariés d'Amazon de continuer à lutter, que celles et ceux qui n'ont pas encore rejoint le mouvement le fassent, car il est grandement nécessaire d'être nombreux et nombreuses pour lutter contre les entreprises de cette ampleur qui font des bénéfices indécents et pinaillent pour augmenter leurs salariés de quelques euros.
Et maintenant, on va parler de répression qui touche les enseignantes en Seine-Saint-Denis.
Oui, une affaire trouble dans l'éducation nationale encore. La semaine dernière, 6 enseignants et enseignantes sur 19 d'une école primaire du 93 ont été convoqués par l'inspection académique en vue d'une mutation. Le courrier ne donne aucune explication, précise juste qu'il ne s'agit pas d'une procédure disciplinaire ou d'une sanction, mais parle d'une mutation qui serait dans l'intérêt du service et destinée à rétablir la sérénité au sein de l'école. En fait, ces menaces de mutation sont liées au conflit avec l'ancienne directrice, au refus d'appliquer certaines directives de Blanquer par l'équipe et à l'organisation trop collective de cette équipe d'instit, le tout monté en sauce par la presse d'extrême droite. Concernant l'ancienne directrice, depuis le début de l'année scolaire, près de 70 fiches santé et sécurité au travail visant ses possibles manquements avaient été transmises à l'académie. Les enseignants et enseignantes dénonçaient notamment un défaut de surveillance des élèves de sa part, son refus de participer à certains conseils des maîtres et maîtresses, sa rétention des comptes rendus de réunion et son non-respect des décisions prises à l'unanimité. Dans un signalement, les enseignants et enseignantes rapportaient aussi que la directrice les aurait qualifiés d'idiots sur sa page Facebook, mais aussi qu'elle aurait appliqué un traitement des familles qui n'était pas le même selon l'origine et aurait tenu des propos parfois ouvertement racistes ou xénophobes. Une instite explique ainsi que la directrice aurait lancé à un élève en présence de sa mère parlant peu le français « Ta mère ne sait pas t'éduquer ». Après une trentaine de signalements sans réponse de la part de l'équipe éducative, les 19 instits de l'école exercent leur droit de retrait pour danger grave et imminent. En novembre 2021, le rectorat de l'Académie de Créteil finit par lancer une enquête administrative pour laquelle toute l'équipe est reçue, mais les instits déchantent vite face à une enquête à charge contre eux. Peu de questions sont posées sur la directrice et on leur demande plutôt pourquoi ils ne font pas les évaluations nationales, pourquoi ils ne remplissent pas le livret d'évaluation numérique. Et oui, parce qu'une des principales raisons pour laquelle cette équipe éducative est dans le viseur de l'administration, c'est parce qu'elle refuse collectivement d'appliquer bêtement les directives de Blanquer, notamment les évaluations nationales OCP, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas uniquement de cette équipe et de cet établissement, puisqu'il y a d'autres établissements qui le font dans le cadre d'une consigne syndicale du SNUIPP-FSU. Cerise sur le gâteau, en janvier 2022, le magazine d'extrême droite L'Incorrect publie sur son site un article titré « Gauchisme à l'école, le niveau monte », qui se concentre donc sur cette école Louis Pasteur. Il qualifie l'établissement d'école dirigée de fait par une amicale d'Antifa, dans laquelle les enfants des quartiers populaires ne peuvent qu'apprendre la haine de la France et de son histoire. Selon lui, les instits seraient prêts à tout, y compris au harcèlement, pour ne pas perdre cette usine à fabriquer des futurs gauchistes. Dans une vidéo publiée sur la page YouTube de L'Incorrect, l'auteur qualifie aussi les instits syndiqués de l'école Pasteur de terroristes et compare la situation de la directrice à celle de Samuel Paty, le professeur décapité par un terroriste à Conflans-Sainte-Honorine. Tout le monde connaît cette histoire. Dans l'article du magazine d'extrême droite, les prénoms des 3 enseignants de l'école sont quand même cités, même si modifiés à la marge et assez reconnaissables. Et dans la vidéo, l'auteur publie aussi des copies d'écran de messages privés échangés entre eux, sur laquelle on voit leur numéro de téléphone. Donc l'équipe d'enseignants décide quand même d'alerter l'inspection pour mise en danger de leur sécurité au travail et de celle des enfants. Et il faut donc noter que cet article se base majoritairement sur un témoignage anonyme. Pour les enseignants, il n'y a pas de doute, c'est celui de la directrice de l'école. ce que confirme un représentant syndical qui répond pour la directrice. Elle a admis qu'elle a bien parlé à ce magazine d'extrême droite. Bref, quelques jours après la publication de cet article, elle ne vient plus au travail, son poste reste vacant. Puis un nouveau directeur est nommé et les choses se calment. L'équipe considère que le nouveau directeur fait du bon boulot et l'école regagne en sérénité. Les 6 enseignants et enseignantes comprennent donc pas trop cette convocation en vue d'une mutation. Certains ont plus de 10 ans d'ancienneté dans cette école, qui est considérée comme l'une des plus stables de la ville, à part cet épisode avec la directrice qui parle à un magazine d'extrême droite. Et les parents d'élèves sont aussi très en colère. La seule explication, c'est évidemment la répression par l'administration d'enseignants mobilisés et syndiqués qui se sont mobilisés au sein de l'école face à leur direction et qui refusent d'appliquer les consignes Blanquer. Et donc mardi 12 avril, il y a plusieurs syndicats d'enseignants qui appellent à une grève départementale en soutien aux 6 professeurs menacés de mutation.
Et soutien total à la FAS, hein, l'amicale antifasciste de Seine-Saint-Denis, qu'on salue ici.
Allez, on enchaîne.
Local.
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 On parle de Vinci à Lyon alors.
Et oui, vous le savez sans doute, hein, l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry est géré à 60% par nos copains de chez Vinci. Et une enquête de Mediacité nous apprenait la semaine dernière que la multinationale Ecosyd versait des millions d'euros de dividendes à ses actionnaires, alors même que l'aéroport a enregistré un déficit de 1,4 million d'euros l'année dernière. Le conseil de surveillance de l'aéroport a voté le versement de 22 millions d'euros de dividendes pour 2021, ça fait toujours zizir. On apprend aussi que la métropole de Lyon, qui siège dans ce conseil, s'est abstenue. Waouh, mais quel courage politique! Et pendant ce temps-là, les salariés trinquent, puisqu'en 2 ans, Aéroport de Lyon a bénéficié de 8 millions d'euros de chômage partiel, payé donc par l'État, les contribuables, hein, c'est toujours plus rentable. Les salariés ont chômé 40% du temps en moyenne, payé à 84% de leur salaire net. Ça fait quand même une grosse baisse de revenus pour les salariés. Pas pour les actionnaires, visiblement. Les effectifs ont baissé d'un tiers depuis 2020. Voilà. Merci Vinci, merci la privatisation et bonne année aux actionnaires.
Et puisqu'on est au local, est-ce que tu nous ferais pas un petit point sur le bilan des élections à l'échelle de la métropole ?
Ah ben si, on peut peut-être. On a parlé des communes où il fallait surtout pas aller vivre partout en France, mais plus près de chez nous. On a aussi 2-3 résultats édifiants. Alors sans surprise, hein, Mélenchon fait des très bons scores dans l'Est lyonnais. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence. En tout cas, Marine Le Pen, j'allais dire Jean-Marie Le Pen, je suis restée en 2002, moi, par contre.
Alors qu'elle a changé par rapport à son père.
Exactement, oui. Elle s'est fait pousser les cheveux. Et donc, Marine Le Pen, donc, qui ne réalise pas des très bons scores, hein, sur l'ensemble de la métropole, elle est quand même au-dessus de 24% dans 4 communes, où je déconseille donc d'aller s'installer, à Jonage, à Corba, à Mions et à Fézin.
Yes.
Zemmour, quant à lui... je vais retrouver ça. Voilà, Zemmour, il dépasse les 10% principaux. Alors, dans 2 arrondissements de Lyon, je vous laisse deviner lesquels.
Bah,
le deuxième.
Le sixième,
et le sixième,
par exemple.
Bravo.
Chez les bourgeois, incroyable.
Et oui, c'est pas très, très étonnant. Hein. Il dépasse 10% dans 2 communes, Chassieux et Solèze. Et aussi, il dépasse les 10% dans bien plus de communes que ça, à Limonest, Écully, Paulémieux, Satonnet-Camp, Satonnet-Village, Collonges, Lisieux, Saint-Cyr, Saint-Didier, Champagne, Dardy, Charbonnière ou Tassin. Donc, principalement dans l'ouest lyonnais, très bourgeois et aussi plein de faf. Voilà, donc on conseille à tous les habitants métropolitains qui envisageraient de déménager, de porter leur choix plutôt vers l'est lyonnais. Toute façon, a priori, les loyers les y auraient contraints.
Ou alors, on leur conseille de grand remplacer les gens qui habitent dans l'ouest.
À Saint-Didier au Mont d'Or, bon courage à vous, si vous allez vous y installer.
Très bien. Et puis, comme annoncé dans l'émission, on a une petite interview téléphonique.
Et on espère qu'elle va marcher. Donc, c'est sur la lutte des sucs en Haute-Loire. Donc on va les appeler tout de suite et normalement, si on y arrive, ça devrait le faire en direct.
Allô ?
Allô ?
Ah, soit c'était ton écho à toi, soit c'est quelqu'un d'autre qu'on vient d'entendre.
Allô, est-ce que ça marche ?
Ça fonctionne a priori.
Oui, ça marche.
Ouais, super. Longtemps. Carrément. Bienvenue sur le Canu Info du lundi. On est ravis de vous avoir avec nous ce soir. Virtuellement, enfin bah, oui, par téléphone finalement. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous dire aussi pourquoi ce nom, la lutte des sucs, avant tout, pour commencer. Allez-y.
Eh bien là, au téléphone, c'est Johan et Nathalie.
Ouais.
Moi j'habite du côté de Saint-Julien-Chapteuil en Haute-Loire.
Okay.
Et Nathalie habite Le Pertuis, qui est une commune directement traversée par le projet de déviation de Foix-de-Voie de la N88.
Très bien.
Et la lutte des sucs, en fait, c'est les sucs, c'est les petits, c'est les anciens volcans qui parsèment. Tout le petit coin de moyenne montagne où on habite là, c'est des amas de pierres maintenant, c'est du vieux volcanisme. Et généralement, c'est forestier, c'est assez sauvage parce que c'est pentu. Et il y a des grands pierriers comme ça, des chaos rocheux qui forment des petits dômes et qui parsèment le paysage. Et du coup, c'est un pays de moyenne montagne avec un peu d'altitude jusqu'à 1200-1300 mètres.
Ok, d'où le nom. Bonjour, oui, vas-y.
Oui, c'est mon Nathalie, comme l'a dit Johan, donc je suis pertuisienne, j'habite Le Pertuis.
Ouais.
Je voulais juste rajouter que le nom, la lutte des sucs, c'est quand même pas anodin non plus, parce que ce volcanisme-là, sous forme de suc, en fait, c'est unique en Europe. Et dans le monde, il n'y a que deux endroits où il y a des sucs comme ça. Il y en a dans le Hoggar en Algérie et chez nous. Il y a plus d'une centaine de sucs. Les vulcanologues du monde entier connaissent bien notre région à cause de ça. Donc, c'est aussi pour ça que c'est un lieu quand même très, très privilégié, beau et naturel.
Alors, c'est aussi pour ça que je vous demandais, hein, parce que tout le monde ne connaît pas du tout ce que signifie ce nom, les sucs. Très bien, on passe à la suite. Alors, du coup, vous organisez aujourd'hui, depuis quelques temps déjà, contre un projet mené par la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc par Laurent Wauquiez. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ?
Oui, alors c'est un projet en fait qui est assez vieux. Il date de 1997, de déviation de mise à deux fois de voie de la RN88 entre Lyon et Le Puy. Il y a déjà plein de tronçons qui ont été faits, dont le gros s'est terminé en 95. Et il reste un petit bout qui est entre Le Pertuis et Saint-Austien. Qui a été abandonné en fait par l'État, puisque c'est une nationale, donc c'est de la compétence de l'État, en 2007, puisque l'utilité publique n'étant plus là, il n'y avait pas de gain de temps, il est de 3 minutes seulement. Et il faut savoir que c'est un projet qui passe en zone vierge, c'est-à-dire qu'il va artificialiser 140 hectares en tout. Alors qu'actuellement, quand on fait une mise à deux fois deux voies, en général, on met deux voies à côté de deux voies déjà existantes. Donc, ça artificialise pas énormément. Alors que là, c'est une zone vierge. C'est un projet comme on faisait dans les années 70 avec les autoroutes. Hein. On passait dans des zones vierges. Et nous, on estime, les habitants, la lutte des sucs, un collectif, qu'en fait, c'est un projet du passé, un projet d'hier, qu'il n'y a pas lieu d'artificialiser sans 40 hectares comme ça pour 10,7 km de route et pour gagner 3 minutes par rapport à ça. Donc là, on lutte là-dessus parce que 140 hectares, c'est aussi 20 hectares de zone humide, 60 hectares de forêt, 80 hectares agricoles. Donc c'est quelque chose qui est quand même immense, très coûteux au niveau environnement et très coûteux au niveau euro aussi.
Ouais, alors sur le plan environnemental, il y a des fermes qui sont impactées, notamment. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Et puis le budget, il est complètement faramineux. On peut clairement appeler ça un grand projet inutile. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça ?
Sur l'aspect du foncier, qu'il soit agricole ou forestier ou même juste sauvage. Enfin, moi, j'aime bien faire la distinction parce que la forêt, souvent, il s'y passe des choses. L'humain, il met les pieds. Mais là, comme je te l'ai dit au début, souvent, les sucs, c'est même des zones trop pentues où on ne peut même pas accéder. Donc, il y a plein de zones qui sont presque un peu comme des confettis comme ça de sauvages, parfois même proches des villages. Donc, le projet de Foi de Voix a été dessiné au milieu de tout ça, une création complète de tracés à un endroit où il y avait donc des prés, des forêts, des pierriers, tout ça. Et sur l'aspect agricole, et ben déjà, il y a des fermes qui, basiquement, se font du coup enlever des terres, que les paysans soient propriétaires ou fermiers, c'est-à-dire locataires. En tout cas, ils s'en font enlever une bonne partie. Et du coup, vu que c'est une région qui est quand même encore restée assez agricole, c'est pas du tout évident de retrouver ces terres-là qui sont perdues, puisqu'on sait que les paysans, les paysannes sont malheureusement souvent un peu en compétition entre eux sur pour trouver du foncier, et surtout malheureusement en grosse compétition avec l'artificialisation, avec les nouvelles zones résidentielles, enfin tout cet aspect zone et développement de commerce, d'industrie, et nous on n'est pas épargné par ça puisque c'est pas si loin que ça du Puy-en-Velay, qui est un peu la ville moyenne du coin, la préfecture de Haute-Loire. Et du coup, c'est clairement les paysans, les paysannes vont être les perdants de ça. Et tout le monde, in fine, va être perdant de ça, puisqu'en fait, le nouveau tracé, il va créer des nuisances sonores et visuelles au même nombre d'habitants que ceux qui sont actuellement vivants avec le nez sur la route actuelle, quoi. La route actuelle qui traverse deux bourgs. Et ben, en gros, il y aurait le même nombre d'habitants. Qui aurait le nez sur la nouvelle route à deux fois deux voies que sur la route actuelle. Et puis au niveau de tout ce qui est sauvage, habitat sauvage et tout, de tous les milieux où qui sont quand même assez chouettes et où on n'a pas pied et où ça pourrait être souhaitable que ça reste comme ça, puisque il faut de ces endroits-là comme ça aussi où juste on n'intervient pas. Ben évidemment, là, ça va passer au milieu et vu que c'est assez encaissé, il va falloir créer des sortes de grosses tranchées qui vont manger des bandes très larges de terrain pour pouvoir avoir une pente acceptable pour poser deux fois deux voies au fond, ou alors créer des viaducs avec des grosses piles en béton qui viennent se mettre au milieu d'un... Ah oui, il y a 13, c'est ça, on me fait signe qu'il y a 13 ponts et viaducs, dont un énorme viaduc qui franchit là un vallon qui s'appelle le Roudès, et du coup qui vient poser des piliers en béton au milieu d'un vallon forestier.
Ok, alors je suis pas sûr que vous l'avez dit, mais si c'est le cas, désolé, mais le budget de tout ça, ça s'élève à combien exactement ?
Actuellement, il est estimé par la région à 226 millions d'euros, mais c'est une budgétisation qui avait été faite il y a longtemps, en 2007, avec les fameux 13 ouvrages d'art. Et entre-temps, ils ont eu quelques surprises parce qu'en 2007, en fait, il n'y avait pas eu vraiment d'études géologiques. Et quand la région a repris le flambeau, en fait, l'ouvrage, en 2017, ils ont fait des études géologiques. Et il s'avère que là où il fallait creuser de 15 mètres, en fait, il faut creuser de 30 parce qu'il y a de l'argile. Enfin, il va y avoir beaucoup de choses. Alors, 226 millions d'euros, c'est vraiment le minimum. Et ça, c'était budgétisé donc il y a 20 ans. On voit le prix, le prix des matériaux maintenant.
Voilà, le gasoil, les matériaux, le béton, la ferraille.
Il va falloir qu'ils sortent 3 millions de mètres cubes de terre et de gravats. Nous, on a compté, ça fait à peu près 100 camions par jour pendant un an. Donc au niveau du gasoil, ça va être... c'est pas non plus budgétisé. Il y a 20 ans, c'était pas le même prix, quoi. Donc là, il y a eu des études qui sont bien en dessous, qui estiment que de toute façon, ça sera au moins 400 à 450 millions d'euros, quoi.
Okay.
Donc en effet, ça va devenir le projet, si ça se fait, parce que nous, on lutte pour que ça se fasse pas. Si ça se faisait, ça serait le premier projet, le plus grand projet autoroutier de France, hein, pour 10,7 km exactement, en fait.
Et d'après vous, puisqu'il y a bien une raison, pourquoi est-ce que Laurent Wauquiez décide d'y aller jusqu'au bout sur ce projet ? Quelles sont ses raisons ?
La région dont on parle, là, celle où on vit, en fait, c'est vraiment la terre d'élection qu'il a choisie. Alors, je ne sais pas exactement à quand on peut dater ça, mais en fait, il s'est placé comme successeur d'un député de droite dure. Classique, disons, qui s'appelait Jacques Barrot et qui était c'était un peu son fief. Et dans les années 2000, Wauquiez a émergé au niveau de l'UMP national, un peu les années Sarko et tout ça là. Ouais. Et en fait, il s'est choisi comme fief le Velay et la région du Puy, Saint-Jean et voilà plus largement la Haute-Loire. Il a été, si je me trompe pas, il a été maire. Il a été maire du Puy-en-Velay. Il a été député de la circonscription Est, donc la circonscription d'Saint-Jean. Et voilà, on connaît l'ascension qu'il a eue dans UMP et LR, des fois malheureuse, mais bon, voilà, il est toujours un peu là, quoi. Et puis en tout cas, à la région, son accession à la région, il l'a vraiment construite sur la base de la Haute-Loire et de l'Auvergne, en jouant un peu la campagne contre la ville. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un peu... Le refrain, c'était « Oui, on oublie la campagne, il n'y a rien qui est fait pour la campagne, on va corriger ça. » Sous-entendu, les socialos pensent qu'à la ville et aux banlieues, nous, on va s'occuper de la bonne vieille Auvergne.
Et visiblement, son projet, c'est quand même de bétoniser la campagne.
Comment ?
Son projet, ça a l'air visiblement plus de bétoniser la campagne. Donc, c'est marrant de l'opposer à l'urbanisation.
C'est une défense un peu étonnante de la campagne. C'est clair que c'est une vision un peu effarante. Et puis, c'est une certaine idée du progrès qui est bien implantée dans la tête de plein de monde, qu'une région rurale, il faudrait la désenclaver, qu'il faudrait nous y mettre des routes, nous y mettre des infrastructures, tout ça, parce que ça fait bien, ça fait qu'on s'occupe de nous, quoi, qu'on est pris en considération. Mais du coup, ça donne lieu à des choses assez, assez hallucinantes, et même tout ça, c'est documenté, il y a des enquêtes journalistiques là-dessus. Vous pouvez lire un peu Médiacité, qui fait vraiment le bon taf là-dessus. Et puis il y avait rue 89 Lyon, enfin il y a plein d'enquêtes là-dessus, où en fait vraiment en termes d'arrosage d'argent public sur la Haute-Loire, c'est démesuré depuis qu'il est là. Chaque commune a son stade, son gymnase, sa salle polyvalente, ses trottoirs tout neufs, les minibus pour toutes les assos sportives et comités des fêtes et tout ça. Et c'est l'occasion toujours de serrer des paluches et de mettre des petits panneaux bleus de partout, ou des panneaux bleus, on en a, voilà, on a à chaque coin de rue, quoi.
Qui plus est, le Wauquiez est quand même accusé
Pardon ?
Wauquiez est aussi accusé d'avoir truqué des marchés publics dans la région.
Exactement, ouais, le dernier truc en date, c'est... alors, je ne sais pas si on parle de la même chose, mais au Puy, il exerce encore une grande influence parce qu'en fait, il a ses réseaux, il a donc ses réseaux encore à la ville. C'est sa suppléante qui est la députée, mais dont il a aussi un pied à l'Assemblée, ce qui donne accès à l'enveloppe parlementaire et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des trucs prouvés qui montrent que sur l'attribution de fond, mais bon là j'ai pas exactement les données précises donc je veux pas m'étendre, mais il faut vraiment aller lire les articles de Médiacité, rue 89 Lyon.
Voilà. Bon, en tout cas, on a compris que c'était quand même en grande partie électoraliste du point de vue de Laurent Wauquiez et de ses sbires. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler un petit peu de la lutte en tant que telle ? Comment vous arrivez à la mener en essayant de faire assez court ? Quels sont vos moyens d'action ? Qu'est-ce que vous avez déjà fait et qu'est-ce que vous comptez faire prochainement ?
Alors, ce qu'on a déjà fait en urgence, ça a été de déposer des recours en fait en justice. Il y a deux recours en fait qui ont été déposés par une association qui porte la lutte des SUC au niveau de la justice, c'est France Nature Environnement. Donc FNE Auvergne-Rhône-Alpes et FNE 43 Haute-Loire a donc déposé deux recours sur l'environnement avec le fond. Voilà, donc ça c'est déposé, sauf que c'est le temps de la justice, donc ça a été déposé, maintenant ça va faire un an et demi, et puis on n'aura pas le verdict avant deux ou trois ans. Comme M. Wauquiez pousse vraiment les travaux, on avait déposé au tribunal administratif un référé suspension pour arrêter les travaux en attendant que la justice se prononce et sur le fond. Et cet arrêté, par contre, au niveau du tribunal administratif, là, on l'a perdu. Alors, on l'a perdu, on s'y attendait aussi parce que les travaux, en fait, depuis 10 mois, sont arrêtés. On n'a pas trop de véritables raisons. Bon, ils sont arrêtés. C'est vrai que il y a pas la période. Il y avait la période aussi d'hiver qui a été. Mais le fait est que c'est arrêté. Donc, du coup, le tribunal administratif n'a pas pu arrêter des travaux qui n'avaient pas vraiment commencé. Actuellement, ce qui a commencé, c'est le défrichement, c'est-à-dire que l'emprise a été défrichée. Alors, ça a été très impressionnant. Hein. Et en plus, ça s'est fait illégalement, puisqu'il y a un arrêté préfectoral. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites hors normes, on va dire, au niveau normes environnementales. Voilà. Donc ça, c'est le côté justice qui suit son coup. Et nous, la lutte des Suds, on est un collectif donc de gens, habitants, pas habitants, juste aux proches qui veulent défendre la Haute-Loire ou aussi défendre profondément l'écologie et l'environnement. On continue la lutte donc par rapport à ça, déjà à se faire connaître, à faire connaître le projet, afin de que ces travaux ne commencent pas et que la justice puisse se prononcer et si on pouvait l'activer, c'est vrai que ça serait bien, mais ça c'est pas dans nos cordes quoi.
Alors et si ouais, complète assez rapidement s'il te plaît.
Ouais, je fais vite. On fait des actions de terrain. Disons, ça fait 2 ans qu'on est monté en puissance et qu'on a eu vachement de monde de manière grandissante sur les actions qu'on a faites. Et on s'est mis en réseau, notamment aussi avec des personnes d'un peu plus loin qui ont pu nous rejoindre à l'occasion des soulèvements de la Terre, qui est un mouvement national qui est assez chouette et qui...
Carrément.
Qui donne de la force au niveau de... Voilà, parce qu'il y a pas mal de monde qui est venu en Haute-Loire il y a bientôt un an, là, en mai 2021, pour un gros rassemblement d'occupation des terres qu'on a fait pendant 3 jours, à l'occasion desquels on a voulu implanter des cabanes sur le tracé, sur une parcelle qui n'était pas encore vendue à l'État, dont le propriétaire avait donné l'accord pour qu'on laisse ces petites constructions... qu'on avait voulu mobile et démontable aussi pour pouvoir se retourner, mais bon, la préfecture est venue les détruire dès le lendemain, et ça nous fait pas baisser les bras. On prévoit plein de choses pour l'avenir, notamment le 15 mai prochain. On en dira plus très bientôt, mais voilà, on communiquera là-dessus et on invite tout le monde à venir le 15 mai prochain en Haute-Loire. Tous ceux qui veulent découvrir notre coin et nous aider dans cette lutte. On publiera les infos sur nos réseaux et sites et tout ça.
Voilà, au niveau des réseaux, pour nous retrouver, en fait, vous tapez Lutte des Sucs. Hein. On a déjà Instagram, bien sûr, Facebook, et on a aussi un blog où toutes ces infos, on peut les retrouver. Lutte des Sucs.
On mettra tout sur notre blog, comme ça.
S-U-C-S. Voilà,
pour accéder directement.
S-U-C-S.
Voilà, on mettra tout sur notre blog. Cette émission, voilà, elle peut être écoutée sur le site de Radio Canyon, sur notre blog. On est bientôt à la fin de notre émission, donc on va s'arrêter là pour cette interview. Mais merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on tiendra au courant de la suite des événements. N'hésitez pas à nous envoyer les informations. On les diffusera avec plaisir.
Merci beaucoup.
Bonne soirée. Au revoir.
Bon, et puis après cette super interview et avant l'agenda, on va passer à la citation du jour.
Et oui, on se souvient de Chirac.
D'abord, ce qui est très intéressant avec Chirac, c'est que voilà un homme de gauche qui a commencé sa carrière politique en distribuant...
Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu cette voix, mais il s'agissait de Jean-Louis Debré qui, en 2015, nous expliquait que Jacques Chirac était un homme de gauche. Et donc, après Chirac, on a aussi eu Macron en 2016.
Je l'ai rappelé le 12 juillet dernier.
Pourriez-vous le reformuler de manière à ce que les téléspectateurs le comprennent ?
Je vais vous le dire de manière le plus claire possible. Pour ma part, je suis de gauche. D'une gauche qui se confronte au réel, qui veut réformer le pays, qui croit dans la liberté... précisément parce qu'elle construit la véritable égalité de tous. Voilà.
Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu.
Mais bien sûr.
Alors il n'y avait quasiment aucun montage, hein, comme vous vous en doutez. Mais donc après Chirac en 2015 et Macron en 2016, tous ces hommes de gauche, c'est Richard Ferrand qui a déclaré sur Public Sénat « Moi qui suis un homme de gauche et qui connais bien la gauche ». Voilà, c'était la citation de la semaine. Richard Ferrand, ce grand homme de gauche.
On a bien ri et on passe une dernière info. Non, il y avait une blague, mais je crois qu'on
n'aura
pas.
Non, c'était par rapport à une campagne de dons.
Oui, une campagne de dons, mais comme j'entendais
On va passer à l'agenda, on n'a qu'à l'introduire par une campagne de dons. Ouais.
Eh bien, il y a une campagne de dons pour un local politique associatif au 169 Grande Rue de la Guillotière qui s'appelle le Jusqu'ici, qui est un espace librairie militante et bibliothèque au 169 Grande Rue de la Guillotière. Donc, et vous pouvez retrouver cette campagne de dons sur le
Hello Asso en tapant le Jusqu'ici rachète ses murs ou a besoin de vous pour acheter ses murs. Et on mettra le lien aussi sur notre blog.
Donc, ce n'était pas du tout une blague en fait. Et on passe à la suite de l'agenda.
À l'agenda, demain à 19h, donc mardi 12 avril, à la librairie La Griffe, il y a une rencontre avec la sociologue Natacha Chetkussi, j'espère que j'écorche pas trop son nom, autour de son dernier ouvrage « Femmes en prison et violences de genre, résistance à perpétuité ». Et puis, mercredi, il y aura de 16h à 20h la permanence santé de l'espace communal de la Guillotière comme